UMCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Et oui, toute cette semaine, j'ai été toute seule avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec moi, de ne pas m'avoir laissée toute seule. J'apprécie énormément. C'est très gentil de votre part. Et j'étais chez moi parce que, comme vous le savez, nous sommes en transition pour les nouveaux décors et on a très hâte. En tout cas, moi, j'ai très hâte de vous faire découvrir les nouveaux décors. Et on ne veut pas non plus arrêter les émissions. Donc, on a décidé de trouver des solutions pour continuer de faire nos émissions. Et moi, j'ai décidé de le faire du coup dans mon salon pour pouvoir continuer d'échanger avec vous, de partager avec vous. Et toute cette semaine, j'avais des messages pour vous les femmes, les jeunes femmes, les mères, les mamans, les femmes mariées, les femmes seules aussi. Et aujourd'hui, je voulais m'adresser aux femmes dans le ministère ou les femmes qui sont appelées au ministère. Alors déjà pour commencer aussi, c'est que je veux dire, là on va parler du ministère au sens large. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, quand on parle de ministère, j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps au sens large. Alors du coup, je vais aussi en parler au sens large, mais je veux rappeler que le ministère tel que on peut le lire dans la parole, la façon dont Dieu a défini le ministère de la parole dans Éphésiens 4, 11, il nous dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on fait appel au mot ministère assez facilement et au final il y a pas mal de gens qui se retrouvent être dans le ministère et ça veut servir le Seigneur, c'est comme devenu ministère. Alors il n'y a pas de mal en soi dans le sens où on sert le Seigneur, on est actif dans notre service pour le Seigneur, on peut servir au sein d'un ministère et puis on fait des raccourcis aussi dans notre façon de parler. Puis on va dire, oui, moi je suis dans le ministère, je travaille dans le ministère, etc., etc. Mais c'est important, même si on l'utilise un petit peu comme ça, de se rappeler que le ministère de la parole est tel qu'il est défini dans Éphésiens 4, 11. Donc il est question d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Donc ce qui veut dire que le ministère n'est pas quelque chose à prendre à la légère et je veux vraiment en parler aujourd'hui. Que le ministère, c'est quelque chose de sérieux. C'est le ministère qui est le ministère de la parole. Nous devenons des porte-parole pour pouvoir transmettre une vérité de la parole de Dieu à un peuple, à des brebis, à des gens qui ont besoin d'entendre la vérité. Ce sont des personnes que Dieu a appelées, que Dieu a équipées d'une façon surnaturelle, avec une grâce, avec une onction surnaturelle. Et c'est des choses qu'on ne peut pas fabriquer. C'est des choses qu'on ne peut pas acheter non plus. C'est certain que même si on est appelé au ministère, même si il y a une onction sur nous, il y a quand même cette dimension de la formation qui est importante, l'appel et la formation, mais une formation sans appel sera forcément incomplète et c'est vraiment Dieu qui désigne, qui l'a appelé au ministère. Le ministère est une grâce, le ministère est vraiment une grâce, mais ça ne veut pas dire si on n'est pas appelé au ministère non plus à un des cinq ministères, comme on lit dans Éphésiens 4, 11, qu'on n'a pas non plus de destinée, qu'on est des sous-croyants, des sous-chrétiens. Pas du tout. Il y a des gens qui sont appelés au ministère, puis il y a des gens qui ne sont pas appelés au ministère. Et c'est vraiment important de pouvoir déjà faire ce bilan aujourd'hui parce que oui, le mot ministère est un petit peu utilisé à tort et à travers. Et c'est pas parce que on exhorte de temps en temps à l'église qu'on est dans le ministère. C'est pas parce que on est actif au sein d'un ministère qu'on est dans le ministère. C'est certain que on est au contact d'une réalité ministérielle. parallèle, ceci dit, d'une vie ministérielle. Quand un enfant est a des parents qui sont dans le ministère, l'enfant n'est pas lui-même dans le ministère. Il n'est pas dans le ministère. Il n'a pas reçu cette grâce encore, ou il ne la recevra pas. Peu importe, ça dépend de son appel. Mais il n'a pas reçu non plus l'autorité qui vient avec le ministère. Mais pourtant, l'enfant évolue dans un environnement hyper ministériel où il est au contact des réalités, il peut comprendre, il peut saisir certaines choses, mais c'est pas parce que le fils de votre pasteur a conscience de certaines choses qu'il est automatiquement pasteur et qu'il est automatiquement dans cette dimension ministérielle. Donc avoir conscience et être au contact d'une réalité ministérielle ne fait pas de nous un ministre de Dieu, ne fait pas de nous quelqu'un qui est dans le ministère. Et je crois qu'il faut le dire, parce que le ministère a été à la fois banalisé, mais aussi a été comme idéalisé, comme étant la seule avenue possible pour servir le Seigneur. Et Dieu est tellement plus grand que ça. Dieu nous parle de personnes qui n'étaient pas dans le ministère, mais qui étaient importantes à ses yeux. Je pense notamment à Dorcas, qui faisait des vêtements. Elle a été ressuscitée. On dit, mais regarde, elle faisait des robes, elle faisait des habits. Cette femme a fait tellement de bien aux saints. Et finalement, elle a été ressuscitée. Cette femme-là n'était pas une prédicatrice, elle n'avait pas une église, mais c'était une femme qui était importante. Et ce qui montre que la manière dont Dieu nous voit, c'est pas à travers un ministère ou à travers un titre. Alors, si certains déjà d'entre vous, ça vous parle et vous vous dites, bah, finalement, moi, je me suis un petit peu encombrée, ou je me suis attribué un titre ministériel qui n'était pas, que Dieu ne m'a pas donné, bah, c'est le temps de me réajuster. Maintenant, je veux vraiment parler au niveau de vous encourager à être sérieux. Vous êtes dans le ministère, ou vous êtes appelé à être dans le ministère de la parole. Je veux vous encourager à être extrêmement sérieux avec Dieu, à être sérieux dans votre responsabilité, dans cette charge que le Seigneur vous a confiée. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un show, ce n'est pas un métier. C'est une charge, c'est une responsabilité que Dieu nous a confiée, une responsabilité qui est chère à son cœur, une responsabilité pour laquelle on aura aussi à rendre des comptes. Et on peut lire dans Jacques 3 au verset 1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Et aujourd'hui, tout le monde a l'air de vouloir enseigner, tout le monde a l'air de vouloir dire quelque chose, avoir à dire quelque chose. Alors, je ne suis pas contre le fait de faire des vidéos, de faire des choses sur les réseaux, sur YouTube, etc. C'est le monde, la génération dans laquelle on vit. C'est un moyen de communication qui est devenu extrêmement normal. Avant, les gens qui avaient des vidéos, c'est des gens qui se faisaient filmer. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui venait, on filmait soit les grands événements de famille, ou alors on filmait les célébrités, on filmait les choses comme ça. Mais aujourd'hui, on filme soi-même avec son propre téléphone, avec son propre matériel. C'est devenu facile, mais c'est pas parce que c'est possible que c'est forcément, encore une fois, l'appel de Dieu. Et ce verset nous montre qu'on ne doit pas être ça doit pas être forcément un désir ardent qu'on doit avoir. Oh, moi, je veux parler, je veux enseigner, parce que avec cet enseignement, il y a vraiment une responsabilité. Il dit, nous serons jugés plus sévèrement, et qu'il n'y ait pas un grand nombre de personnes. Parce qu'il y a vraiment cette responsabilité. Et on peut et quand on va se présenter comme un ministère et qu'on se dit parler de la part de Dieu et qu'on a un enseignement à donner, sachez qu'il y a des conséquences. Il y a des gens qui vont écouter ce que vous allez dire, il y a des gens qui vont le mettre en pratique. Et si c'est des vérités qui n'étaient pas bibliques, si c'est des choses que vous n'avez pas reçues dans la présence de Dieu, des choses que vous n'avez pas reçues dans la formation, une vraie formation biblique, des choses que vous n'avez pas reçues dans la parole, c'est juste un sentiment, une émotion, un moment, un témoignage, une expérience, et que vous vous avez voulu juste la partager comme ça au monde entier, mais que vous êtes présenté comme un ministère, eh bien, il y a des gens qui vont suivre et il y a des gens qui, à cause de ce que vous allez dire, peut-être vont prendre des mauvaises décisions, vont prendre des décisions dans leur vie au niveau de leur couple, de leurs études, de leur formation, de leur relation avec leurs parents, au niveau de leur argent, de leur corps, de leur santé. Ils vont prendre des décisions basées sur ce que vous avez dit, pensant que c'était un enseignement qui venait de la part de Dieu. Alors, assurons-nous que lorsque nous parlons, nous disons des choses qui soient justes, qui soit vrai. Personnellement, avant de faire une émission, c'est vraiment quasiment toujours ma prière, Seigneur, qu'on puisse dire des choses qui soient vraies, des choses qui soient justes, des choses qui viennent de toi et pas des choses qui viennent de nous, pas des choses que de notre propre sagesse, mais vraiment qu'on puisse parler avec précision et avec vérité de ta part. Parce que c'est tellement facile de dévier, c'est tellement facile de tomber dans des choses sentimentales, dans des choses émotionnelles, dans des choses spectaculaires, sensationnel, mais c'est pas ça le ministère. Alors je veux vraiment vous encourager à être sérieux, à être sérieux. Et il y a des ministères qui sont passés avant nous, et quand je dis avant nous, c'est parce que je m'adresse peut-être un peu plus au ministère plus jeune. Il y a des hommes et des femmes qui sont passés avant nous et qui ont été extrêmement sérieux avec le ministère de la parole. Des gens qui, quand ils vous racontent comment ils se préparent, leur vie de consécration, leur vie de prière, c'est des gens qui comprennent l'importance de chaque parole qu'ils vont donner à la fois devant Dieu, mais à la fois devant les hommes. Et ce sont des modèles, ce sont des inspirations, même si aujourd'hui on est dans une génération où ça a l'air plus accessible, ça a l'air plus simple. Le ministère n'est encore une fois que le résultat d'un appel que seul Dieu peut donner, que seul Dieu peut faire. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit dans sa souveraineté. Et on ne peut pas forcer le bras de Dieu, on ne peut pas forcer sa destinée. Dieu a une destinée idéale et parfaite pour toi. Je veux aussi vous encourager à ne pas être seul. Vous êtes dans le ministère et en fait, c'est important que vous soyez encouragé par d'autres personnes. Important que vous soyez encadré aussi par d'autres personnes. Il y a différents niveaux de relations dans le ministère et on les a pas forcément toutes. Il y a ce niveau où on va avoir des aînés autour de nous, des gens vers qui on peut se tourner quand on a besoin de conseils, quand on ne sait pas quoi faire. Des gens aussi qui, en échange, vont aussi avoir le droit de pouvoir nous corriger, de pouvoir dire « Là, qu'est-ce que tu as fait ? Là, j'ai écouté ton message, c'est pas juste ce que tu as dit, c'est faux en fait. Tu as dit quelque chose qui était faux, regarde là, dans tel et tel passage, tu vois que finalement, ça contredit ce que tu as apporté. » Et de pouvoir accepter ces paroles, de pouvoir accepter cette correction, de pouvoir être enseignable. On voit que quand David a pris, comment elle s'appelle, Bathsheba, et finalement qu'il a mis un plan complètement machiavélique en place avec Uri, qu'il a décidé de le tuer, etc. Il y a Nathan qui était là, Nathan qui était un prophète, et Nathan qui a su ce qui s'était passé et qui allait voir David. Alors il a eu une approche qui, je crois, était une approche très sage, inspirée de Dieu pour pouvoir parler au cœur de David. Mais Nathan a eu aussi quand même ce courage d'aller trouver le roi et de dire « Ok, t'as fait quelque chose qui n'était pas bien, t'as fait quelque chose qui était grave en fait, et je le sais, Dieu le sait, et il faut, voilà, qu'est-ce que toi David tu vas faire ?» Et David s'est repenti, David a choisi d'accepter, de reconnaître sa faute, de reconnaître ce qu'il avait fait. Et dans notre vie, bah, y a des Nathan qui ont ce droit de parole, qui peuvent venir vers nous et qui prennent leur courage quelquefois demain pour dire « c'est pas bien ce que tu es en train de faire ». À la fois au niveau du ministère, mais quelquefois aussi dans notre vie personnelle, la façon dont on peut vivre, parce qu'ils voient qu'on a pu laisser une porte ouverte au péché. Ils voient que, ou alors ils sont au courant d'une situation, quelquefois des situations d'immoralité, des situations de péché, des situations où on a pu manquer de respect envers d'autres personnes, où il y a pu avoir une forme de manipulation. Ils viennent dire « Oh, 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 là, ce que tu es en train de faire, c'est pas correct. Ta manière d'agir, c'est pas correct. T'as besoin de te mettre, t'as besoin de prendre un pas de recul, t'as besoin d'un temps de restauration, t'as besoin d'un temps de repos, t'as besoin de te repentir, t'as besoin de demander pardon. » Ça peut être tout un tas de choses, c'est certain, les conséquences, mais on a besoin d'avoir ces personnes-là. On a aussi besoin d'avoir des personnes qui seront comme des pères, dans le sens, ce seront des compagnons de route, des gens avec qui on va pouvoir échanger, des gens, ils vivent pas exactement la même chose que nous, c'est certain, mais on se comprend, on parle le même langage, et on va pouvoir échanger et s'encourager, parce que ce que l'un a vécu, l'autre l'a vécu aussi, et puis dire, bah tu sais, moi je suis passée par là, et justement l'année dernière, bah regarde, moi comment le Seigneur m'a relevé, j'ai fait telle et telle erreur, franchement, je ne le fais pas, ça va être plus... Cette relation, c'est ça, de compagnon de route. On est dans le ministère, on se comprend et on apprend les uns des autres. On échange avec vulnérabilité et on ose s'ouvrir, on ose partager sur nos défis. On ose dire que bah nous, notre ministère, il est pas parfait, qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises, des choses on a fait des erreurs, que on a des défis relationnels avec certaines personnes, qu'il y a eu des blessures, etc. On ose parler de ces choses-là. Donc ça peut être avec les aînés, ça peut être aussi avec les pères, ses compagnons de route. Et c'est aussi important, je crois, dans le ministère, d'avoir des gens autour de nous qui ne sont pas dans le ministère, des gens qui sont qui aiment le Seigneur, qui servent le Seigneur dans un autre domaine, qui ne sont pas dans le ministère, parce que ces gens vont pouvoir nous apporter une richesse dans notre ministère, nous rappeler que bah, la vie chrétienne, c'est pas que le ministère, ça peut être extrêmement rafraîchissant. Se rappeler juste d'aimer Dieu, tout simplement. Qu'en dehors du ministère, il y a toute une vie chrétienne à vivre. Il y a tout un monde à vivre avec le Seigneur. Et ces gens-là peuvent, à travers aussi leurs témoignages, à travers leur quotidien, à travers leur parcours de vie, venir enrichir notre ministère, parce que ça nous donne des nouvelles perspectives, des nouvelles façons de voir. Parce que si on ne marche qu'avec nos compagnons de route, on ne parle que ministère, on ne vit que ministère, on ne pense que ministère, mais il y a une majorité de personnes qui ne sont pas dans le ministère, qui ne vivent pas ce quotidien, qui ne vivent pas ce défi, mais il y a d'autres défis dans le quotidien que du coup on n'aura même pas conscience, et quelquefois qu'on pourra même mépriser, genre nous dans le ministère, il y a les souffrances du ministère, mais chaque quotidien a ses défis, chaque quotidien ses avantages, je dirais, et aussi ses inconvénients, entre guillemets. Et c'est important de ne pas s'enfermer dans un monde ministériel et de pouvoir côtoyer d'autres personnes qui vont nous ouvrir d'autres perspectives, qui vont nous faire rappeler d'autres besoins que la société a, d'autres besoins que d'autres personnes dans d'autres milieux peuvent avoir, que ce soit au niveau des milieux culturels, que ce soit au niveau des âges aussi, parce que on risque de fréquenter des ministères qui ont à peu près notre âge ou qui ont à peu près la même expérience, etc. Et puis se déconnecter, soit des plus vieux, soit des plus jeunes, et de ne plus savoir quels sont les besoins. Et en tant que ministère, on est là pour répondre, pour apporter des réponses aux besoins des gens, pour leur apporter de l'enseignement, pour leur apporter une parole qui vient de Dieu, pour leur apporter des réponses et des solutions. Alors c'est important de pouvoir avoir cet entourage autour de nous en tant que ministère et d'être équilibré, de savoir où aller chercher de l'aide, où aller chercher du rafraîchissement, où aller chercher de la correction, même si c'est rare qu'on y aille, ok, j'ai besoin d'être corrigé, mais s'il n'y a jamais personne qui t'a corrigé, s'il n'y a personne qui peut te corriger, c'est dangereux, et je le dis vraiment en toute humilité, même si ça fait des années que tu es dans le ministère, et que ça fait des années que peut-être même tu es connu, ton nom est connu, mais s'il n'y a personne autour de toi qui peut te parler, qui peut être comme Nathan, qui peut venir te voir et te dire, bah voilà ce que le Seigneur m'a montré, et c'est grave, c'est important, c'est quelque chose avec lequel tu peux juste pas continuer, et que tu es comme un roi dictateur, ok, t'as parlé, j'ai pas aimé ce que t'as dit, je te coupe la tête. Aujourd'hui, on coupe pas la tête, mais on met en exil, on rejette, on peut calomnier, on peut couvrir, on peut faire tout un tas de choses pour ne pas recevoir ces paroles de correction. Toi-même, tu t'exposes tout simplement. Et aussi, donc, comme je disais, avoir des compagnons de route pour ne pas marcher seul, pouvoir s'encourager et pouvoir échanger aussi, avoir ces personnes qui ne sont pas dans le ministère, mais qui seront vraiment une richesse et une force dans le ministère, et qui parfois, étonnamment, seront des grandes sources de rafraîchissement pour votre vie, parce qu'ils vont amener un souffle nouveau et ça va vous faire extrêmement du bien. Alors, je vais terminer aussi en répondant aux questions que vous avez pu posé. J'avais demandé sur mon compte Insta si vous aviez des questions parce que je préparais une émission. Donc voilà les émissions. Et donc je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Donc je suis désolée, j'ai pas non plus répondu en privé, mais j'en ai sélectionné quelques-unes, notamment les questions qui sont revenues le plus souvent, le plus régulièrement. C'est des questions que plusieurs d'entre vous vous êtes posées. Alors par rapport au ministère, une des questions qui est venue, c'était « Je ne me sens pas encouragée par mes autorités spirituelles dans mon appel, que dois-je faire ?» Et c'est une question qui est revenue à la fois avec les autorités spirituelles, mais aussi avec l'entourage, que ce soit les amis ou que ce soit même un époux. Alors, que dois-je faire? La première chose que j'ai envie de dire, c'est ne pars pas en combat contre les hommes. Ne commence pas à lutter contre eux et à essayer de dire « Mais non, moi je suis appelée, moi j'ai un appel » et à essayer de convaincre. Fais confiance à Dieu. Une foi active, hein, ceci dit, pas passive, mais une foi active où tu crois que c'est Dieu qui va t'ouvrir les portes et que Dieu va le faire proprement aussi. Ne tombe pas dans l'amertume, ne tombe pas dans la rébellion. Ne tombe pas dans une revendication personnelle. Demande la sagesse à Dieu où tu dois être. Quel est l'endroit où je dois être? Cet endroit où je dois être planté peut-être. Cet endroit où je vais pouvoir développer, je vais pouvoir répondre à l'appel de Dieu et non pas à mes propres ambitions. Ça, c'est important aussi de pouvoir faire la différence entre l'appel et l'ambition et aussi de différencier est-ce que vraiment les gens autour de moi ne me supportent pas, ne m'encouragent pas dans mon appel ou alors est-ce que j'ai des personnes autour de moi qui sont sages et qui me disent juste... c'est pas encore le moment, c'est un temps de préparation et peut-être que toi dans ton empressement tu entends on ne croit pas en toi, ce ne sera jamais le temps. Assure-toi d'avoir bien compris la bonne chose. Autre chose concernant aussi le ministère, en tout cas en partie, c'était comment bien utiliser les réseaux sociaux pour avoir un impact. Alors, on peut utiliser les réseaux sociaux pour avoir un impact sans être dans le ministère. Ça fait partie de notre vie de témoin. Comme à l'époque, on n'avait pas de réseaux sociaux, donc juste on allait témoigner aux gens qu'on pouvait croiser, qu'on pouvait rencontrer. Aujourd'hui, on peut témoigner sur les réseaux sociaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit absolument le faire, mais on peut le faire sans être appelé au ministère. On peut impacter, on peut mettre des messages, partager des messages, partager des versets, partager un témoignage, etc. Ça ne fera pas de nous des ministères et ça ne fera pas de nous des pasteurs en ligne non plus, mais ça fera de nous des témoins sur les réseaux sociaux. Maintenant, si les réseaux sont pour toi une occasion de chute et que ta seule motivation en mettant un verset, c'est de pouvoir avoir un maximum de likes et tu t'en fiches un peu de ce que le verset va produire, peut-être que tu es en train de passer à côté de quelque chose. Mais ça, c'est un problème que tu rencontreras à travers les réseaux, mais que tu rencontreras aussi en dehors des réseaux parce que ça veut dire qu'il y a des choses en toi qui ont besoin d'être éprouvées, d'être épurées, d'être sanctifié et avec ou sans réseaux sociaux, ce sera la même chose. C'est juste que là, le fait des réseaux, les réseaux ont mis en évidence quelque chose et je crois que c'est quelque chose que tu dois remettre devant le Seigneur et te repentir d'avoir cherché à avoir un impact pour ta propre gloire. Et cette recherche de propre gloire, elle existe en dehors des réseaux quand on peut aller prêcher à l'extérieur, qu'on prêche même devant 3 personnes, etc. C'est est-ce que je le fais vraiment pour la gloire de Dieu? Est-ce que je le fais parce que je veux qu'on me voie? Est-ce que je le fais parce que je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir prêcher et tout ça? Même si on vit ce genre de mauvaise motivation, ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas l'appel. Ça veut dire quelquefois, comme je l'ai dit, qu'il y a besoin de sanctification et que ce n'est pas forcément le temps pour que cet appel se manifeste de façon publique. C'est un temps aussi de formation. Et c'est pas parce que c'est possible, c'est pas parce que c'est accessible, je le redis, de pouvoir être public que c'est forcément le temps de Dieu. C'est pas parce que je peux le faire par mes propres moyens que c'est le temps que Dieu, c'est le temps de Dieu et que j'ai le go et l'approbation de Dieu. Donc encore une fois, l'importance de ne pas être seul et d'avoir des gens autour de nous qui sont capables de nous dire avec un peu de recul, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que tu fais du bien? Est-ce que tu fais du mal? Et concernant je ne sais pas si je peux dire ce mot-là, mais le ministère sur les réseaux sociaux, assure-toi que ce que tu montres, que ce que tu dis, ce que tu enseignes, et ça, ça vaut sur les réseaux et encore une fois sur une estrade, assure-toi juste que ce soit que ce soit cohérent avec ce que tu vis, que ce soit pas une vie inventée, une vie spirituelle inventée. Et ça veut pas dire qu'on doit être parfait pour être dans le ministère, ça veut pas dire qu'on doit être parfait pour parler. Il y a des choses dont on parle dans la foi et dans l'espérance, il y a des choses dont on parle en sachant que nous-mêmes on n'est pas encore arrivé dans la dimension dans laquelle Dieu nous appelle, mais il faut le faire avec cette humilité, cette vulnérabilité de dire de pas se faire passer en tout cas pour qui nous ne sommes pas, et de pas aussi utiliser du coup, parce que ça va être plus sur les réseaux, parce que ça, les réseaux vont au-delà du message, de faire des messages sur les couples et couple goals comme on dit, et puis finalement ton couple à toi c'est carrément la catastrophe. Vous êtes là, vous êtes pris la tête avant de prendre la photo, vous êtes pris la tête après la photo, vous êtes pas parlé, t'as parlé n'importe comment à ton mari, n'importe comment à ta femme, mais t'as mis ta super belle photo sur Insta, t'as eu plein de likes et tout le monde te dit « Waouh, vous m'inspirez trop », etc. Faut être honnête et sincère devant Dieu. Est-ce que ce que j'ai exposé, ce que j'ai montré, est-ce que c'est le reflet de ma vie? Et si c'est pas du tout le reflet de ta vie, si t'es en train de vendre du mensonge, eh bien, ce n'est pas une bonne chose. Ça doit être cohérent avec ce que tu vis. On en revient à ce que j'ai partagé en début de semaine avec l'intérieur et l'extérieur. Et l'extérieur de ton ministère, l'extérieur du message, l'extérieur du messager, de la messagère, doit refléter ce qu'il y a à l'intérieur. Et finalement, si on voit dans tes messages de l'humilité, si on voit de l'amour, si on voit de la passion, si on voit toutes ces choses, c'est des choses qui doivent être encore même plus grandes dans l'intimité et à l'intérieur, parce que ton intérieur est beaucoup plus riche que ton extérieur. Et c'est un petit peu ça le danger du ministère sur les réseaux, c'est de nourrir l'extérieur sans nourrir l'intérieur et de devenir déséquilibré et finalement de tomber dans ce piège des apparences et ce piège de l'hypocrisie. Et j'en reviens à ce que Jacques nous dit, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner parce que vous serez jugés sévèrement, et de ne pas prendre ça à la légère. Parce que c'est une vraie responsabilité, et de poster des choses sur les réseaux, c'est une chose, mais après de se déclarer ministère, c'est encore une autre chose, parce qu'il y a vraiment une responsabilité qui vient avec ça. Alors, une autre question... Est-ce que j'avais une autre question avant de terminer? Alors attendez, je regarde. Écoutez, j'avais fait le tour de celles que j'avais notées. C'est super, j'ai bien travaillé. On m'applaudit, bravo Annabelle. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci à vous d'avoir été avec moi toute cette semaine dans Parole de Femme. C'était une première dans l'histoire de Parole de Femme que je sois seule. Mes amis m'ont manqué. J'ai hâte de retrouver mes amis de Parole de Femme. Et j'ai aussi hâte de vous montrer le plateau le nouveau plateau de Parole de Femme. Mais en tout cas, j'ai été très heureuse d'être avec vous. Et puis, j'espère, je crois que le Seigneur a pu vous parler à travers ces séries, à travers cette série, a pu vous communiquer un message d'encouragement, un message d'espoir. Et je vous dis encore merci d'être fidèle à Parole de Femme. Merci d'avoir répondu à ma demande de questions et d'avoir été présente. C'est super de sentir ce sentiment de groupe et de communauté. Merci à toutes celles qui nous suivent aussi depuis longtemps. Il y en a certaines qui vous suivent depuis quasiment le début. Vous êtes vraiment courageuses. Merci d'être avec nous. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Parole de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Parole de Femmes sur emcitv.com.